I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Touchdown Actu. On est de nouveau ensemble pour parler des Jacksonville Jaguars. Aujourd'hui, on continue les pastilles, la preview de la NFL version 2023. Et aujourd'hui, en revanche, on change de casting. Exit Victor et Grégory que vous avez entendu il y a quelques jours, pendant quelques jours. Et on récupère d'abord Raphaël Masmejean. Comment ça va, Raph?
Salut Lucas, salut à tous. Eh ben, ça va très bien. Un grand plaisir de retrouver tout le monde.
Eh ben écoute, si ça va très bien, tant mieux. On a aussi Raoul Villeroy. Comment ça va, Raoul?
Salut tout le monde, bah, trop content. J'adore cet enthousiasme, Lucas, c'est communicatif.
Bah, tant mieux, j'essaye. On arrive dans les bonnes équipes en plus, hein. Non pas que les autres n'étaient pas enthousiasmantes, mais là on arrive vraiment dans des équipes qui le sont encore plus. Messieurs, je suis ravi d'être avec vous. Ça nous rappelle les belles heures de micro-ondes, notamment pour les plus assidus de l'univers Touchdown Actu. Ils auront la référence. On va parler des Jaguars, messieurs. On prend la direction de la Floride une nouvelle fois. Jaguars qui ont fait un bilan de 9 victoires pour 8 défaites l'an passé. Ils ont gagné leur division, la AFC Sud. C'est la deuxième saison de Doug Peterson qui a fait du très bon boulot la saison passée. On va parler rapidement des arrivées, des départs. Il y a eu Brandon McManus, le kicker qui est arrivé. C'est peut-être l'arrivée principale. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées cette saison du côté des Jaguars. D'Ernest Johnson, on a Henry Mondo, on a Jacob Harris, on a Calvin Ridley qu'on peut considérer comme arrivant. On en parlera certainement, messieurs, parce que il a été tradé il y a quelques mois déjà, mais il n'a pas joué la saison passée. Du côté des prolongations, on a Evan Engram, le tight end, qui a été prolongé, Davon Hamilton, Robertson Harris aussi, Roy Robertson Harris, le defensive line. On a Dawin Smoot, Andrew Wingard aussi, on a Trey Hendron, le cornerback. Et puis du côté des départs, forcément, Jawan Taylor, on en parlera peut-être, Shaquille Griffin, le cornerback, Arden Key, Chris Manhertz, Dan Arlen, le tight end, et Marvin Jones. Voilà, ça fait beaucoup de monde, messieurs. Je vais commencer avec une question plus globale. C'était la surprise de la saison passée, on peut le dire. Les Jaguars, ils sortaient d'une saison quasi catastrophique avec, on se rappelle, Urban Meyer. Ils ont été surprenants l'an passé avec une victoire en plus du côté des playoffs. On en parlera aussi. Désormais, l'effet de surprise est passé. Est-ce que c'était un feu de paille l'an passé, messieurs, ou est-ce que les Jaguars vont confirmer? Je commence d'entrée, je vous vois réfléchir. Raph, à toi l'honneur.
Feu de paille, je dirais que non. Je pense qu'ils étaient sur une dynamique... Ils étaient dans une progression attendue, en fait, à l'image de leur jeune quarterback Trevor Lawrence. On attendait à ce qu'ils progressent. Disons qu'ils ont peut-être progressé un peu plus vite que ce qu'on pensait grâce à une division AFC Sud très faible qui, en fait, leur a permis d'être qualifiés en play-off. Ce n'était pas forcément ce qu'on attendait de l'an dernier. Le contexte a fait que ça leur a permis d'aller en play-off. Mais je pense qu'en fait, c'était quand même dans la logique de les voir progresser. Après, peut-être pas autant, voilà. Donc, et j'ai envie de croire qu'ils sont sur une pente ascendante et donc ça va pas juste être un feu de paille. Après, attention, on va développer après. Quand je dis pas feu de paille, ça veut pas dire que je vais les voir remporter le Super Bowl pour autant, mais je pense qu'ils vont confirmer leur statut de favori de l'AFC Sud.
Raoul, pour toi, pente ascendante les Jaguars?
Ouais, parce qu'en plus la saison était un peu en deux étapes. Le début a été compliqué quand même, hein, même avec l'arrivée de Doug Peterson. Et après la bye week, ça allait beaucoup mieux. Ils finissent en trombe. Ils gagnent un match de playoff. On va pas trop en parler. Enfin, on verra. Et ensuite, bon voilà, ils perdent face aux Chiefs, qui n'a rien de déshonorant. Donc oui, elle a une très bonne dynamique cette équipe. Et pour répondre à ta question de début, je les vois continuer sur cette bonne dynamique.
Oui, quand j'ai dit qu'il gagnait un match de playoff, je t'ai vu faire une tête bizarre et dans ma tête, pendant que j'expliquais, je me suis dit, est-ce que je suis en train de dire une bêtise? Mais en fait, je viens de
Non,
réaliser, je
non.
comprends pourquoi cette victoire était face aux Chargers. En effet, on s'arrêtera
On
là.
reparlera dans quelques
Messieurs,
jours aussi, tu
on
verras.
va, en effet, on va rentrer dans le vif du sujet, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes, on va parler des facteurs qui peuvent faire gagner cette équipe-là. Est-ce qu'on commence pas directement par le quarterback? C'est quand même peut-être le facteur principal de cette équipe-là, Trevor Lawrence. Je donne quelques statistiques avant de vous donner la parole, mais le quarterback, sur ces 9 derniers matchs, c'est plus de 2200 yards, quasiment 70% de passes complétées, 15 touchdowns, 2 interceptions seulement et 104 de passer rating. Il a vraiment explosé. On s'y attendait. C'est arrivé un tout petit peu tard, Raoul, mais finalement, il commence vraiment à devenir le joueur qu'on attendait qu'il soit quand il sortait de college.
Oui, en plus, il est sorti de college avec un record invaincu ou un truc comme ça. Donc, forcément, il y avait une attente très importante. Il y a un temps d'adaptation qui, je crois, est passé. Et surtout, il a aujourd'hui autour de lui des joueurs qui peuvent l'aider à réussir, à performer. On a évoqué Calvin Ridley. Je pense que ça vaut le coup qu'on en parle. Effectivement, il y a cette suspension d'un an. On ne sait pas trop ce qu'il vaut encore aujourd'hui, mais lui a, bon, évidemment, il va pas dire le contraire, mais lui a affirmé qu'il était prêt comme jamais et que il avait son niveau maximal pour performer. Il y a, tu l'as mentionné, la prolongation d'Engram côté de tight end qui va faire du bien aussi. Travis Etienne en running back, c'est pas mauvais. Christian Kirk l'an dernier fait une bonne saison. Je trouve qu'autour de lui, il y a de quoi l'aider à continuer à progresser et à mener cette attaque à bien.
Raph, est-ce qu'on en est à un quarterback qui a besoin de très bons joueurs autour de lui pour continuer à progresser, comme semble être en train de le dire Raoul, ou c'est déjà un quarterback assumé qui, certes, a des bons joueurs, mais c'est un très bon quarterback? Est-ce qu'il manque peut-être pas juste un peu de constance pour être vraiment parmi les tout meilleurs?
Ouais, c'est ça, il lui manque de la constance et de le prouver sur un temps un peu plus long. Il l'a prouvé sur une demi-saison, on va dire l'an dernier, peut-être même un peu moins d'une demi-saison, qu'il avait passé un cap. Là, c'est forcément l'année de la confirmation pour s'installer parmi les meilleurs quarterbacks de la ligue. Sincèrement, vu l'évolution l'an dernier, je vois pas très bien pourquoi il n'y arriverait pas. Donc j'ai envie de te dire que maintenant, il va commencer à rentrer dans cette case où il aura besoin d'armes parce que la NFL, notamment au poste de receveur, c'est devenu une course à l'armement. Donc, tu peux pas te contenter d'avoir des receveurs faibles et en te disant, bah, mon quarterback fera le taf et puis voilà. Mais voilà, comme on disait, je pense qu'il a atteint ce palier-là. Et après, juste pour rejoindre ce que disait Raoul, moi, je pense que Calvin Ridley va être une des très, très bonnes surprises, sensations de la saison. Et je le vois être le numéro un, le receveur numéro un qu'attend Jacksonville, et ça ne peut aider que cette attaque aérienne, qui sera, comme c'était le début de ta question, qui sera, à mon avis, la première raison pour laquelle Jacksonville va gagner des matchs.
Oui, Raoul, tu as parlé aussi de beaucoup d'armes autour de lui. Hein. Raph vient de parler de Calvin Ridley, de Zay Jones aussi, Christian Kirk. Tu as parlé des Van Engram aussi. Et puis il y a Travis Etienne, on n'en a pas parlé aussi, messieurs, mais c'est un running back, mais qui peut aussi s'insérer dans ce jeu aérien dont parlait Raph. Ça aussi, c'est un vrai facteur qui peut faire gagner des matchs, qui peut faire avancer cette équipe, Raoul.
Bah, c'est un truc qui est de plus en plus répandu en NFL. C'est coureurs un peu double menace au sol et aérien. Et oui, Travis Etienne fait très bien le boulot à ce niveau-là. Ça va nous amener, à force de dire que cette attaque est incroyable, ça va quand même nous amener sur le dernier élément de cette escouade-là, qui est la ligne, où là, il va y avoir peut-être des sourcils un peu plus froncés.
Pas convaincu par cette ligne offensive, on peut aller directement dans ce qui peut faire perdre cette équipe-là, sauf si vous avez d'autres motifs de satisfaction dans cette équipe. Mais personnellement, en ayant préparé, c'est vrai que cette défense-là, puisque c'est ce qui nous reste, elle n'est pas forcément convaincante. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Je vous sens dubitatif. Donc on peut directement passer sur ce qui peut faire perdre. Et puis pour finir sur l'attaque, on peut y aller. Raoul, tu parlais de cette ligne offensive. On n'est pas forcément serein quand on regarde cette ligne offensive.
Non, alors elle est pas catastrophique, mais tu as mentionné le départ de Jawan Taylor, alors qui part pour un prix qui, bon, qui peut poser question, mais qui prouve aussi que c'était un bon joueur de ce côté-là. Il y a Cam Robinson qui va manquer des matchs, Brandon Scherff qui est pas le plus, en tout cas qui peut se blesser de temps en temps. S'il faut trouver un point faible dans cette attaque, moi c'est la ligne offensive. Il faudrait pas qu'elle plombe tous les points positifs qu'on vient de mentionner.
Je te sens pas non plus convaincu, Raph, sur cette protection de
Ouais,
3.
en fait, je trouve que alors je vais peut-être mal le formuler, mais je trouve que Jacksonville a pas tant de points faibles que ça, mais a beaucoup d'interrogations en fait sur le niveau interne et sur des progressions attendues. Et c'est peut-être ce qui peut un peu leur poser souci au fur et à mesure de la saison. Raoul, elle commence à le dire, je trouve pas que cette ligne soit en tant que telle un point faible. Mais malgré tout, pour passer un palier, cette ligne, elle va avoir besoin que le rookie Harrison prouve quelque chose, que Walker, qui a une deuxième année, prouve aussi qu'il a progressé. Donc, on est plus sur des attentes, des doutes, des questions. Et si ces joueurs progressent ou ont un niveau attendu, la ligne ne sera pas un point faible, en fait. L'absence de Cam Robinson va bien se passer, le départ de Jawan Taylor va être comblé. Mais à l'heure actuelle, c'est plus des questions et des interrogations que vraiment une certitude que ça va être un point faible. Et je trouve qu'en fait, on retrouve ce truc-là pour pas mal de secteurs de jeu du côté de Jacksonville. C'est, on n'est pas sûr que ce soit un point faible, mais on n'a aucune certitude que ça va être un point fort et on est un peu dans l'expectative. Et peut-être que ça, du coup, pour une équipe qui vise quelque chose en playoff, c'est peut-être en soi un point faible que d'avoir beaucoup de doutes. Voilà, je.
J'ai comme l'impression que tu nous as un peu décrit un facteur X là. Je
Là.
sais pas si c'était ton facteur X, mais ça ressemblait à ça en tout cas. Et si je peux rajouter quelque chose à ce que vous venez de dire, ça va être très important parce qu'on a vu que Trevor Lawrence, on en parlait, qui vraiment progresse de jour en jour, mais qui a encore un petit peu de mal sous pression. Et c'est vrai que si cette ligne offensive là ne fait pas le boulot, ça pourrait ralentir un petit peu la progression de Trevor Lawrence. On va passer, pardon, messieurs, du côté de la défense. Et là, pour le coup, je vois quand même des vrais points faibles. Raph, tu disais qu'elle n'a pas de vrais points faibles cette équipe-là. Pour moi, par exemple, les lignes arrière, je suis vraiment pas rassuré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Par exemple, à part Tyson Campbell, qui a été plutôt bon l'an passé, Raoul, c'est vrai que c'est globalement très peu rassurant, la secondary, comme on dit.
Tu l'as mentionné, Tyson Campbell est le seul qui a un peu brillé. André Cisco peut un peu progresser, mais là on retrouve ce que disait Raphaël sur cette idée de d'avoir des mecs dont on n'est pas sûr. Moi j'ai trouvé une stat, c'est quand même qu'ils ont pris plus de 7 fois 27 points dans la vue, ce qui est quand même pas mal. Et quand tu as une attaque qui est forte, mais qui est jeune et qui progresse, alors qui a fait des très bonnes stats, mais qui doit progresser et continuer d'être consistant ou régulier, tu peux pas te permettre de prendre autant de points. Je pense que ça peut les plomber au bout d'un moment. Et pour finir, ce qui m'inquiète peut-être dans cette histoire que la défense est quand même globalement faible, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de renforcement, ni à la draft, ni à la free agency. Et donc, du coup, j'ai pas l'impression qu'on ait voulu faire vraiment progresser immédiatement la défense. On attend que voilà, ça se passe avec les mecs qui sont sur place pour voir ce que ça va donner.
On attend, Raph, que peut-être Trevon Walker, le premier choix de l'an passé, explose. On sait qu'il a été un petit peu en dedans l'an passé. Cette défense-là, elle était 26e l'an passé. Donc, globalement, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant.
Ouais, c'est inquiétant. Et effectivement, sur le papier, pour commencer ce début de saison, on voit que les points faibles ont l'air d'être de ce côté défensif et que c'est ce qui peut amener à faire perdre Jacksonville. Après, tu vois, quand je reste dans ma lignée, mais quand Raoul dit qu'il n'y a pas eu de renfort externe à cette défense, pas vraiment. En tout cas, la draft, les choix ont été très tardifs sur l'aspect défensif. En free agency, il n'y a pas eu de renfort défensif. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est peut-être que Jacksonville pense avoir les éléments et compte sur de la progression interne. Alors peut-être qu'ils font un mauvais pari, et ça, c'est eux qui assumeront les conséquences dans quelques semaines. Mais voilà, c'est encore une fois, pour moi, on est sur une équipe qui compte sur de la progression interne. Du coup, à l'heure actuelle, c'est un point faible, mais potentiellement, ça peut être une bonne surprise au cours de la saison, ce backfield défensif. Donc je sais pas, j'attends de voir.
Surtout qu'on a Doug Peterson à la tête de cette équipe-là, qui a prouvé tout de même qu'il est capable de faire évoluer et progresser ses joueurs. On l'a vu avec Trevor Lawrence l'an passé, on l'avait vu aussi du côté des Eagles. Donc ça peut être un pari en effet, et c'est probablement ce que sont en train de se dire les Jaguars. Messieurs, on va pour terminer quasiment parler du facteur X, et je me permets de commencer parce que vous l'avez déjà un petit peu évoqué. Pour moi, le facteur X, c'est Calvin Ridley, très clairement, du côté de cette attaque-là, parce que en effet, c'est un très fort joueur, on le sait, il est incroyable. La dernière saison entière qu'il a fait, c'était 90 réceptions, 1300 yards, quasiment 9 touchdowns. Le problème, c'est qu'il n'a pas joué du tout l'an passé. On a toujours du mal un petit peu à voir ce que les joueurs peuvent donner après un an d'absence. Et surtout, on va avoir besoin d'un vrai numéro 1. Raph, tu le disais, on a vu ce que ça peut faire quand un vrai numéro 1 arrive du côté des Eagles, par exemple, avec AJ Brown, même si Smith a la carrière d'un numéro 1, mais AJ Brown est arrivé et a fait passer un cap à cette attaque. On a vu Tyreek Hill aussi, notamment du côté des Dolphins. Et véritablement, les Jaguars, pour moi, si Calvin Ridley prend cette place de numéro 1 et devient le vrai numéro 1 incontournable, comme le disait Raph, ça peut être le facteur X maintenant. Voyons voir comment il revient par rapport à sa suspension de l'an passé. Voilà, c'est mon facteur X, messieurs. Je suppose que vous en avez d'autres.
Moi, j'en ai pas trop parlé au moment de la défense, mais pour moi, c'est un peu le pass rush que je verrais comme facteur X. Mais dans l'ensemble, parce que, enfin, y a plein de points qu'on aurait pu citer comme facteur X, hein, Raph le disait bien. Et moi, le pass rush, je vois ça comme un peu un moyen de soulager les lignes arrières dont on a dit elles pouvaient être une faiblesse de cette défense, et donc de permettre à Jacksonville de pas encaisser trop de points. C'est vrai que Trevon Walker, on en attendait mieux, d'autant que quand tu vois le choix qu'ont fait les Lions avec Aidan Hutchinson, on va en reparler, je crois, demain, hein. Mais voilà, il y avait un peu de marge. Josh Allen, on parle bien du défenseur, il y a de la marge. Devin Lloyd, c'est un premier tour en 2022, il y a de la marge. Enfin voilà, c'est pour moi ce pass rush, si les trois susnommés et l'ensemble arrivent à suffisamment libérer de pression des lignes arrières, ça fera peut-être un équilibre un peu plus harmonieux dans cette défense, et ça permettra peut-être d'aller chercher des matchs qu'ils n'auraient pas réussi à gagner l'année dernière.
Raph, tu avais l'air de partager le point de vue de Raoul.
Ouais, je m'étais noté le même facteur X. L'an dernier, les Jaguars ont seulement 35 sacks, ce qui les met dans les 10 dernières équipes de la Ligue à ce niveau-là. T'as pas un seul edge rusher à plus de 7 sacks. Et ce qui est pas normal pour une équipe, et Raoul a commencé à le dire, mais qui a mis autant de premiers tours à la draft sur des edge rushers. Josh Allen, Trevon Walker, il y a aussi Calvin Chasen qui a un peu disparu depuis sa draft, qui a quand même été drafté très haut par les Jaguars. Et tant que ces mecs-là n'atteignent pas le niveau attendu, ça expose les lignes arrière défensives. Et je pense que de toute manière, en NFL, en 2023, ça me paraît compliqué d'aller loin en playoff si tu n'as pas un pass rush efficient. Et tant que Jacksonville ne trouve pas comment faire marcher ces joueurs-là, comment être efficace là-dessus, j'ai peur qu'on se retrouve un peu dans un scénario comme l'an dernier. C'est un petit tour en playoff et bye-bye, quoi.
Eh bien, messieurs, on va parler justement du calendrier pour terminer cette pastille. Les Jaguars, ça va être un déplacement du côté des Colts pour commencer la saison. Deux réceptions, les Chiefs et les Texans. Ensuite, il y aura deux matchs à Londres, la réception, entre guillemets, des Falcons, le déplacement face aux Bills, mais ce sera bien à Wembley et au Tottenham Stadium. Ensuite, il y aura la réception des Colts, déplacement aux Saints et aux Steelers, semaine de repos, réception des 49ers et des Titans, déplacement chez les Texans, réception des Bengals, déplacement chez les Browns, réception des Ravens, déplacement chez les Buccaneers. Et enfin, on termine avec la réception de Carolina et le déplacement du côté de Tennessee, pardon, des Titans. Quel pronostic on donne à cette équipe, messieurs? Je vois Raoul en train de réfléchir. Raph, tu peux te lancer si tu veux.
Eh ben, en fait, j'ai reconté, mais moi, j'arrive quand même à 10 parce que le calendrier est quand même abordable. Cette division, à part les Titans, tu as quand même des matchs qui sont plutôt prenables, aller comme retour. Donc, tu peux avoir 4 victoires faciles face aux Texans et face aux Colts. Et puis, ben voilà, derrière, il y a d'autres équipes qui sont capables d'accrocher. Tu vois, je les vois bien battre les Steelers, par exemple, des équipes un peu de ce calibre-là. Donc, moi, j'arrive à 10 et pour moi, ça peut faire champion de division.
Rafi, t'as coupé la chic, mais tu peux y aller cette fois-ci pour
deux. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais entendu.
Non, non, il y a pas de problème, Raoul. Moi, je les vois champion de division, autour de 10 victoires, avec, à mon avis, un 5-1 dans la division, mais,
Ouais. Oui, je t'ai vu quand Raoul a dit à part les Titans, mais c'est vrai que même les Titans, globalement, il semblerait que les Jaguars soient, on va dire, supérieurs. Ils l'ont été la saison passée. Pour moi aussi, je suis assez d'accord avec vous, messieurs, 17, je suppose que c'est un bilan qui convient à tout le monde. 17 une fois, oui. Deux fois, trois fois. Mais ça sera 17 pour les Jaguars, messieurs. Et puis, premier de la FC Sud. Voilà, c'est cadeau avec un nouveau passage en playoff. On verra ce que ça donne. Voilà, c'est ainsi que se termine cette pastille sur les Jacksonville Jaguars. N'hésitez pas à aller sur le site pour voir la preview écrite par un autre rédacteur de la rédaction, pour voir un autre point de vue. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur aussi tous les réseaux sociaux. Messieurs, j'ai été ravi de partager cette pastille avec vous. Et puis, on va... Alors, pour tout vous dire, on a un spectateur déjà qui en avant-première écoute cette pastille. C'est Alain Mattei qui essaie de nous déconcentrer. Je vais finir parce qu'en plus, il va m'engueuler après parce que j'étais trop long. Messieurs, je disais, j'étais ravi d'être avec vous et on se retrouve dès demain. Surtout aussi, voilà, c'est pour ça qu'Alain me faisait le signe et je vais le dire. Rendez-vous le 2 septembre, messieurs, du côté du Hard Rock Café à Paris. Il y aura une soirée organisée par le Hard Rock et Tejan Actu. Vous pourrez venir, il y aura un podcast en direct, il y aura des quiz. Vous pourrez parler à plein de rédacteurs de la rédaction de Tejan Actu et notamment Raphaël Masmejean. Voilà, c'est dit et j'essaierai de ne pas l'oublier sur les trois prochaines journées. En tout cas, les trois prochaines pastilles. Voilà, on s'arrête là. Messieurs, dames, à demain. Ciao, ciao.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.